No hearts remained. Danny missed his family. Darkness slowly ate away at his view of the stormy seascape until all was black. After a moment of longing silence, a question appeared to Danny in simple elegance. Continue? It asked. Along with it, two options, yes or no. Danny was ready to return home.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, derrière le micro, François Chicouillard, et derrière les pitons aussi. Et en ma compagnie, la présence glorifiante de Raymond Poirier.
Bonjour, François.
Je viens d'inventer un mot. Et puis aujourd'hui, beaucoup de choses, hein. On va parler des vidéos les plus... c'est un grand phénomène du web, hein, les vidéos peut-être les plus populaires de 2009.
Mais il faut dire, en fait, selon YouTube et selon le bilan qui a été rendu public tout récemment, ça a été une année extrêmement faste. Les gens ont partagé énormément de contenu. Alors on va voir quel genre de contenu a été partagé, quelles ont été les vidéos les plus populaires et aussi peut-être les plus remixées, parce que popularité n'est pas seulement visionnement.
La popularité, ça vient souvent avec le remix et... Et heureusement, il n'y a pas de lip dub.
Non, mais enfin, non, effectivement, il n'y a pas de lip dub qui a été cherché là, les plus hautes positions.
On
ça sera
content.
Peut-être pour. Faudrait surveiller ce phénomène-là peut-être en 2006 ou en 2007. Là.
Ah oui, ouais, c'est ça, parce que là, ça va se cracher.
Mais c'est vraiment. Un peu passé date, les lip dub.
Ouais, c'est ça s'en vient périmé peu à peu. Sinon, on va entendre aussi une entrevue avec les duellistes, monsieur Antoine Perrault, qui va parler de dague, de combat, de dague et de lutte, selon l'école médiévale de Fjord de Libéry. Et on va écouter évidemment des nouvelles du monde entier dans le domaine ludique, l'actualité ludique, quoi. Alors, on va commencer évidemment avec une musique, avec une pièce musicale. Ça va être un groupe de Montréal. C'est un artiste électronique. Il s'appelle Inca Cola et la pièce s'appelle Bombs and Candies. Vous êtes à puissance maximale.
Inteligente, com paciência. A gangue é só o guerreiro marcando presença. O tempo é curto.
a vida é curta, vê se curta viva. Larga a vida negativa, a gente desentiva. Vida extensiva, as irmãs e os irmãos. Gostaria de ver vocês todos levantando as mãos. Antenados ligados e cantando bem alto para o céu, põe as mãos pra cima.
Veja as suas mãos.
Gauchada nervosa e ultramei na função.
Retour à puissance maximale, en compagnie de Raymond Poirier.
Et oui, bonjour François, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices. Et on est à l'aube de 2010, j'espère que tu le réalises François, j'espère que vous le réalisez à la maison, là, dans quelques jours, nous ne serons plus en 2009, et donc nécessairement ce sera la dernière fois de notre vie qu'on aura vécu cette année.
Et c'est le moment des tops.
C'est le moment des tops, c'est le moment des palmarès, c'est le moment des bilans. Enfin, il faut dire François, quelle meilleure manière que de regarder ce qui s'est passé que d'essayer d'en dresser un bilan. Et comme... À notre ère, on est moins dans l'époque des grands romans, des grandes dissertations, mais plutôt dans l'époque du facile à lire, du facile à analyser. J'ai comme l'impression que les petits palmarès avec des chiffres, avec des points qu'on peut consommer en quelques instants, eh ben c'est
winner.
Tout à fait winner, exactement, tout à fait gagnant là, pour notre charmante époque. Ce qu'on va retenir tout particulièrement du top 5 que je vais vous dresser, top 5 des vidéos viraux, des phénomènes Internet principalement axé sur YouTube, parce que c'est le médium qui me semble présentement le plus intéressant, le plus mainstream, le plus grand public, si vous me permettez. Donc, ce qu'on va retenir de ces cinq clips-là, c'est de A, que succès viral, succès web, peut nécessairement avoir un impact sur l'économie réelle. Donc, Internet n'est pas un monde en soi, mais qu'il y a des millions et des millions de consommateurs qui sont prêts à dépenser des sous.
C'est pas qu'un monde virtuel, un monde imaginaire, c'est un monde qui se concrétise finalement dans le vrai monde.
Exactement. Et de plus en plus, on voit, François, les compagnies tenter de percer ce mystérieux marché-là parce que la clé de ce qui fait le succès d'une vidéo virale n'est pas encore déterminée parfaitement. Il y a eu quelques percées involontaires, en fait, des vidéos d'usagers qui faisaient indirectement la promotion de produits corporatifs, mais tranquillement, on risque risque de voir des publicités prendre de plus en plus de place là-dedans. Le meilleur exemple, en fait, je ne l'ai pas listé dans mon top 5 parce que nous ne faisons pas la promotion de la publicité ici à puissance maximale.
Non, c'est pas le but.
Exactement. Mais il y a une pub d'Evian qui se retrouve parmi les clips les plus visionnés de cette année. Alors, indéniablement, les ponces du marketing de cette compagnie-là doivent être extrêmement satisfaits.
Evian, une compagnie de bouteilles d'eau, quoi.
Exactement. Et parallèlement, c'est sûr qu'il y a des vidéoclips aussi, par exemple, Lady Gaga, qui a été très, très populaire sur le web. Mais outre ça, on peut quand même aller chercher 5 clips. Et je commencerai par 2. Enfin, on va les allier un peu en termes de propos, puisqu'ils ont, qu'ils représentent un peu le même type de phénomène. C'est qu'à, il y a de ça quelques années, si on remonte en 2006, 2005, 2004, et même au-delà, 99-2000, diffuser de l'information sur Internet, c'était une affaire de semaines, c'était une affaire de mois, c'était une affaire d'années. Et de manière générale, la plupart des vidéos, encore aujourd'hui, ont une espérance de vie qui est quand même plutôt longue en termes Internet. On parle quand même de quelques mois. Notamment, il y a des clips qui ont été mis en ligne en février qui sont encore très populaires aujourd'hui, très visionnés aujourd'hui. Et donc, quand on observe les tendances de recherche ont atteint un certain plateau, mais se maintiennent. Mm-hmm. Mais de plus en plus, ce qu'on risque de voir, c'est des fades, comme on dit en anglais, donc des très courtes popularités, une très large diffusion, mais un phénomène sur un court laps de temps. Et on parle pas de semaines, on parle même de jours. Le meilleur exemple de ça nous est arrivé le 2 février 2009. Ça nous vient du monde des médias, en fait. C'est le site TMZ qui a proposé un extrait audio d'un échange sur le plateau du film Terminator Salvation. Un échange assez coloré, de l'acteur Christian Bale, qui, en bon québécois, pétait sa coche pendant 4 minutes.
Mais pourquoi est-ce qu'il pétait sa coche?
Il était fâché contre le directeur photo du film. Mais en même temps, la circonstance elle-même n'a aucun intérêt. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait un acteur qui pétait sa coche pendant 4 minutes. Donc là, déjà, c'est clair qu'il y a un intérêt, puisque c'est un personnage qui est connu, c'est des frasques cocasses, et on aime ça quand une célébrité tend à s'autodétruire. On l'a vu avec le succès de Britney Spears, notamment, au fil des dernières années.
C'est vrai, on aime ça, voir ça, ouais, c'est vrai.
Il y a comme un plaisir sadique, là.
Dans ce cas-ci, c'est Christian Bale.
Exactement, et je donne un peu l'ampleur du phénomène, là. Il a été mis en ligne, donc, le 2 février par le site TMZ. En quelques heures, on était déjà à produire des remixes sur YouTube de ce clip-là. En quelques heures, pas voilà. En quelques jours. En 72 heures, on avait pratiquement, selon toute analyse et toute réflexion, fait le tour de toutes les possibilités de remix qu'on pouvait faire avec différents clips de réincarnation, de mix techno, de tout ça. Et le 15 février, donc 13 jours après, ça apparaissait déjà dans Family Guy en étant récupéré.
Oh boy.
Et entre les deux, bien entendu, les médias traditionnels avaient repris le phénomène.
Évidemment.
Alors normalement, un clip comme ça aurait dû être diffusé sur quelques semaines. Ça l'a été sur essentiellement 3 jours. Et la consécration de ce clip-là, ça a été un remix qui a été d'ailleurs plus visionné que l'original. Un remix par un artiste qui s'appelle Revolution, qui a décidé d'aller chercher justement la cible techno de ce clip-là. Et ça montre bien où on en est allé créativement là, avec Christian Bale. Et ça a créé d'ailleurs un phénomène qui s'appelle le bail-out. On peut en écouter un extrait.
Mais je veux lancer un avertissement aux gens, c'est peut-être qui ont des enfants, peut-être baisser le son ou revenez dans 15 secondes environ. On va commencer à l'écouter et puis on va parler par-dessus après. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. Fuck! And what the fuck is it with you? I was looking at the light. It's fucking distracting! Il faut dire quand même que ce remix techno-là, on en a vu des tonnes parce que chaque fois qu'il y a un phénomène Internet, il y a nécessairement un remix techno qui vient, mais celui-là, il est de qualité. Oui, hein, puis c'est dansant aussi. Hein. On peut se permettre, là, on peut tasser les meubles à la maison et danser, il n'y a pas de problème.
Et il faut dire en fait que à l'époque de la popularité du sommet du phénomène Christian Bale, ce clip-là qu'on est en train d'écouter, donc pendant quelques jours, un tweet sur 300, c'était ça.
Oh boy!
Il y a
300 dans le monde.
Un sur 300 dans le monde.
Même en Chine, au Japon, là, ça tripait.
En à peu près une ou deux journées, il y a eu 1 million de visionnements. C'est fou. Donc, ça a été un phénomène. Donc, le bail-out. Et donc, ça montre aussi que nécessairement, la popularité vient pas non seulement par mode de visionnement et par mode de diffusion sur Twitter, Facebook et le reste, mais par les remixes et la qualité aussi des remixes.
Et j'ose pas imaginer qu'est-ce qui serait arrivé si Gilles Proulx a répété sa coche quelques années plus tard seulement. Peut-être qu'on aurait eu des beaux remixes techno.
Il y a le problème au Québec, c'est la barrière de la langue. Il y aura jamais de remixte ou de clip au Québec qui va atteindre la popularité des clips anglophones.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a qui ont tenté leur chance, mais reste qu'il y a vraiment une barrière culturelle, linguistique. C'est la même chose aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir l'année prochaine sur les phénomènes Internet qui nous viennent du Japon, de la Chine. Il y a une incompréhension culturelle sur certains d'entre eux. Donc, on a Christian Bale, premier grand phénomène Internet de cette année. Et je le mets en parallèle avec un autre qui nous est arrivé plutôt en fin d'année, François. Ça s'appelle Kanye West, en fait. Et c'est devenu « I'ma let you finish ». Donc, c'est devenu un classique. Et encore là, un classique, on parle pas dans l'espace de deux jours, on parle pas dans l'espace d'une journée, mais on parle dans l'espace d'une heure.
Ça, je t'avoue, quand tu m'as parlé de cette vidéo-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo-là? C'est quoi ça? C'est qui Kanye West? C'est quoi, là?
Alors, essentiellement, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au MTV Video Awards le 13 septembre 2009. Il y a une chanteuse country qui a gagné le clip du meilleur vidéo pour une artiste féminine. Donc, elle faisait son discours d'acceptation. Elle dit, ah, ben, je suis bien contente, blablabla. Et là, il y a Kanye West qui est arrivé, qui a interrompu les activités, qui a dit, Rihanna aurait dû gagner, je vais te laisser finir, mais Rihanna a fait le meilleur vidéoclip de l'année. Et donc, de là, bien entendu, les gens ont regardé ça, ont dit, en bon anglais, c'est exploitable, exploitable. Et dans un délai d'une heure, donc les gens ont pris le clip, l'ont diffusé sur YouTube, en une heure, 300 000 diffusions sur Twitter, rapidement, c'est devenu un phénomène des macro-images avec Kanye West qui dit, par exemple, à Louis Armstrong, avant qu'il mette son premier pas sur la Lune, il disait, ben, je vais te laisser continuer, mais je veux juste te dire que la Chine avait le meilleur programme spatial où Kanye West avec le Titanic est là qui dit je vais te laisser couler, mais je vais juste te dire que la catastrophe du Nausitania était bien pire que la tienne. C'était la plus grande catastrophe au monde. Donc, on voit un peu ce type de macro-là. Il y en a même un qui l'a fait avec le président Obama. Ça donne un petit moment absolument délicieux. C'est avec en parallèle avec ce moment où Barack Obama s'est fait traiter de menteur à la Chambre américaine, à la Chambre des communes américaines.
The reforms I'm proposing would not apply to those who are here illegal.
I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time.
It's not true.
Barack Obama, c'est une grande victime des phénomènes Internet, hein?
C'est une grande victime des phénomènes Internet. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Mais il faut dire aussi qu'en parallèle, ces clips sont parmi les plus diffusés sur YouTube. Mais je pense que celui d'Obama qui est le plus célèbre, outre celui qu'on vient d'entendre sur Kanye West, c'est un autre où il y a un remix de discours via T-Pain et le très nauséabond Autotune qui a détruit l'industrie musicale, à mon sens. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour, Autotune. Mais vraiment, en fait, encore là, avec Kanye West, ce qu'on a vu, c'est une récupération trop rapide. Donc, c'était très cool, mais dans l'espace d'une journée. Mm-hmm. Déjà, si t'étais deux jours plus tard, c'était passé date. Ça a été récupéré dans tous les galas, dans tous les spectacles d'humour. Ça l'est encore aujourd'hui. Je veux dire, il y a un gala de lutte il y a deux semaines où ils ont fait un gag de Kanye West, mais ça devient un peu passé date et pourtant, ça fait seulement deux mois. Alors, les règles ont changé.
Mais quand même, c'est rendu sur la quatrième position là, des vidéos les plus écoutées là, de 2009.
Exactement, des vidéos les plus écoutées, des vidéos les plus diffusées. Et je fais le saut en première position tout de suite pour revenir sur la troisième et la deuxième tout à l'heure, parce que je veux qu'on termine, François, la tournée des vidéos qui nous viennent des médias. Parce que ce qui est fascinant cette année, c'est qu'il y a quand même très peu de contenu qui a été largement diffusé, qui nous vient des utilisateurs directement. C'était le cas peut-être un petit peu plus l'année dernière, mais là, décidément, dans les deux que je vous ai donné, ça vient de vedettes, ça vient du monde des médias.
C'est ça.
Et le vidéo le plus visionné de cette année, même, j'oserais dire, de tous les temps, c'en est un autre qui nous vient des médias, d'une émission très populaire dans le monde, mais surtout au Royaume-Uni. On peut se mettre en oreille l'extrait, vous allez savoir tout de suite de qui et de quoi je parle.
On va écouter tout de suite à partir du moment qu'elle commence à chanter.
Clairement.
Ben, t'as peut-être décrire un peu le contexte, là. Alors, elle rentre sur scène, et là, tout le monde est anxieux, tout le monde se mord les dents. Une femme de 47 ans sans emploi, qui a l'air un peu, disons que c'est pas le look mégastar habituel. Disons, là, ça a l'air d'une femme de ménagère, quoi. Ça a
l'antithèse.
L'antithèse. Alors, tout le monde est comme, on peur, tu sais, de l'entendre chanter pour voir, ça va être un désastre, mon Dieu. Et là, surprise. la harpe.
I dreamed a dream in time gone by.
Et ça, c'est faut dire ça. C'est un très beau moment. Enfin, on peut comprendre. Il y a l'équipe où on n'a pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi, en tant qu'être humain, on se sent bien. On se dit, mon Dieu, on peut vivre notre rêve, même si on n'est pas particulièrement beau, même si on n'est pas particulièrement attrayant au départ. On peut prendre notre chance. Donc, il y a un message très positif dans ça. Le rêve américain, et le rêve d'un peu tous et chacun, on peut l'imaginer. Ça s'est passé le 11 avril 2009. Performance donc, dans Britain's Got Talent. Et depuis, en fait, c'est pratiquement le monde entier qui a vu ce clip-là.
C'est combien de visionnements?
Je te dirais, en fait, en 72 heures, 2,5 millions de visionnements. En une semaine, 66 millions de visionnements. En 9 jours, 103 millions de visionnements. Présentement, il est loin au-delà des 120-130 millions de visionnements. En une semaine, cette femme est passée d'illustre inconnue à l'une des plus grandes vedettes de la planète. Elle chante une chanson qui a été popularisée par Ellen Page. Eh bien, je vous dirais que dans le monde, il y a plus de gens qui connaissent Susan Burle qu'Ellen Page.
Absolument.
Alors, c'est...
Et moi, je te dirais, moi aussi, je me suis laissé prendre au jeu. J'étais sûr que ça allait être une Madame Wing ou un truc du genre, mais non, pas du tout, finalement. Elle chante comme si elle avait la voix de Céline Dion.
Voilà. Voilà, une chanson d'une grande qualité et ça a pris la planète... Par un assaut complet sur la planète. Et ça a montré ça aux compagnies, peut-être l'impact aussi d'un marketing sur le web. Les trois clips qu'on s'est donnés, donc on réussit à créer des phénomènes très rapidement, on réussit à les mettre en valeur très rapidement et indéniablement, comme Susan Boyle, ça a été récupéré aussi par la grande majorité des médias en cours de route. Est-ce que c'est un danger pour l'avenir, justement, cette récupération-là? On peut se poser la question. En parallèle, il y a d'autres éléments aussi qui viennent étayer un peu cette thèse-là et ces préoccupations-là. Et je viens à on retourne un peu en arrière, on s'en va chercher la troisième position, un contenu qui a été généré cette fois-ci par un usager. Diffusion le 19 juillet. C'est une vidéo dans laquelle des participants à un mariage marchent vers l'hôtel en dansant sur la pièce Forever de Chris Brown. Le clip s'appelle GK Wedding Entrance. Donc G pour Jill Peterson, K pour Kevin Hines. Et peut-être on faire la description avant de se mettre en tête la musique. Alors, la vidéo commence dans une église, les portes se ferment, la musique commence, une musique techno, ça se met en place, la pièce débute, et là, tranquillement, on a les deux premiers garçons d'honneur qui rentrent, qui commencent à marcher normalement, et whoops! Bang! Ils se mettent à danser.
Et oui, de façon assez frénétique.
Hein? De façon assez frénétique. Ensuite, il y a des deux demoiselles d'honneur qui font la même chose, ainsi de suite, jusqu'à un paroxysme où un peu tout le monde est à l'avant. La danse tombe un peu en transe et repart de plus belle. Et là, explosion de joie, c'est Jill qui fait son entrée, qui marche en dansant de manière assez sympathique, il faut le dire, vers l'hôtel, donc sur cette pièce de Chris Brown. On peut se le mettre en tête, là, ça va vous donner l'esprit de l'ensemble. Alors ça, il faut dire, François, en fait, je parlais d'impact commercial. Tout de suite après la diffusion de ce clip-là, la chanson de Chris Brown est passée quatrième des ventes sur iTunes. Elle est passée troisième des ventes sur Amazon. Alors, ça a un impact commercial.
Oui, hein.
Ce clip-là, contrairement aux autres clips, peut-être justement parce qu'il a été généré par les usagers, ben le clip est resté populaire.
Ah, oui.
Il a été mis en ligne cet été. Il est encore parmi les plus diffusés, je dirais, dans le dernier mois. Il se classe encore dans le top 20. Et la pièce de Chris Brown continue de vendre également. Il y a eu une controverse, cela dit, parce que Chris Brown a une mauvaise réputation, des dossiers de violence conjugale notamment là-dedans.
Oh là là, fait que faire jouer ça pendant un mariage, c'est peut-être pas la meilleure idée.
Et les gens, en fait, du mariage ne le savaient pas. Et par après, constatant aussi le succès de leur clip, et ont décidé de mettre en ligne un site web, JK Wedding, quelque chose du genre. Fait chercher JK Wedding Entrance, vous allez tomber là-dessus, où ils récoltent des dons pour diverses organisations de lutte contre la violence conjugale. Il y a à peu près 20 000 $ qui a été récolté jusqu'à maintenant. Et ce vidéo-là, encore une fois, c'est encore plus fascinant parce qu'il n'y a aucun appui médiatique. Je veux dire, il n'y a personne qui l'a vu sur un site largement diffusé. Ils l'ont mis en ligne tout simplement. En 48 heures, 3,5 millions de visionnements. Ensuite, c'est passé à 6,6 millions en quelques jours. Et quelques mois plus tard, là, ça montait à quoi? 34 millions de personnes qui l'avaient vu, ce clip. Alors, extrêmement impressionnant.
Oui, et d'autant plus que c'est pas du vidéo professionnel. Là. C'est un petit vidéo amateur, là, tout croche. C'est le zoom. On voit que les pixels, la qualité part de l'image devient mauvaise. Donc, c'est quelque chose de très amateur. Là.
C'est quelque chose de très amateur et qui a eu son impact parce qu'il y a quelque chose de spontané. Encore là, un peu comme avec Susan Boyle, il y a quelque chose de feel good. Ça te fait sentir bien. T'es content, tu souris, tu passes un bon... Tu l'écoutes probablement pas le 5 minutes au complet. Tu l'avances un peu, mais ça te fait passer un 2 minutes 30 agréable. Et la danse que tu vois, François, que les auditeurs peuvent voir à la maison s'ils vont sur YouTube, eh bien, ça a été repris par différentes instances à la télévision à travers le monde. Des troupes de chorégraphie qui ont repris ça sur des versions de différentes... pays de Canadian ou American Idol, mais dans d'autres pays du monde, etc., etc. Alors, ça a eu un vif impact, contenu usagé. Et l'autre, qui serait peut-être à mon sens mon coup de cœur de l'année, en matière de diffusion, on n'atteint pas le niveau de diffusion de Susan Boyle, mais ça va quand même se rapprocher de très, très près. C'est un phénomène qui a été démarré après que le père de David DeVore Jr., donc David DeVore probablement, a mis sur le web une vidéo des réactions de son fils après avoir subi une chirurgie buccale, une chirurgie dentaire.
Tu dis que c'est ton coup de cœur, là. Je te dirais que quand j'ai vu ça, moi aussi, c'est pas mal mon coup de cœur.
C'est absolument délicieux. En fait, le garçon est encore sous anesthésiant. Et avant que vous me disiez, mon Dieu, le père est donc bien méchant d'avoir diffusé ça, c'était pas son intention de diffuser largement. Donc, c'est pas tout le monde qui est familier avec comment Internet marche.
Ah, il a échappé sur YouTube.
Il avait échappé sur YouTube. En fait, il l'a diffusé sur Facebook. Il y avait beaucoup de demandes. Finalement, il s'est dit, ça va être moins compliqué, je vais le diffuser sur YouTube via mes amis. Et sur YouTube, il y a une option publique ou privée. Mais l'option publique est recommandée. Donc, la personne a probablement vu recommander, a cliqué, l'a échappé. Et ça s'est retrouvé pour que tout le monde puisse le voir. Et ça a eu un impact aussi hallucinant. En 3 jours, il y a eu 3 millions de personnes qui l'ont vu. Après une semaine, 5 millions. Et beaucoup, beaucoup de parodies aussi. Parce que c'est probablement le clip cette année qui a été le plus parodié. Et il y a des parodies qui sont absolument délicieuses aussi. Je vous incite à faire la tournée. Et c'est pour ça aussi que je l'ai gardé pour la fin, comparativement à Susan Boyle, qui, oui, en termes de diffusion, est le numéro 1. Mais David After Dentist a été véritablement un phénomène parce que, je le répète, sur le web, c'est pas seulement le fait de diffuser, mais c'est aussi le fait que des gens vont prendre le temps de prendre le clip, d'aller là, dans leur caméra, d'aller dans leur auto, de se filmer, de faire des parodies. Et ça montre que ce clip-là a frappé l'imaginaire. Il va frapper le vôtre. On peut en écouter quelques clips, quelques extraits.
Quelques extraits. Écoute, c'est 2 minutes. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de ce qui se met à crier parce que je trouve que c'est trop extraordinaire.
Surgery. Yeah, I know. How did it go?
I didn't feel anything.
Yeah.
I feel fine.
Kind of felt good, didn't it?
Is this real life?
Yeah, this is real life.
Hey, c'est vraiment la vie.
Okay, now I have 2 fingers.
Good.
Il a 2 doigts.
4 fingers.
4 fingers?
4 doigts.
No, don't put that in. Don't put it in your mouth. Okay? You feel good?
I can't see anything.
Yes, you can. Stay in your seat.
Alors, on voit un peu pourquoi ça a frappé Et de ce clip-là, justement, il y a le cri, il y a le « Is this real life? » Il y a aussi un « Is this going to last forever? »
C'est complètement surréaliste.
Complètement surréaliste.
Là, il n'est pas en train de se faire torturer. Là. Il est juste comme assis, il est attaché, il n'y a pas de danger. Là. Le char ne bouge même pas. Là.
Mais en fait, c'est que l'idée, c'est que les jeunes aussi de notre génération sont nés avec la technologie. Le petit bambin, David, il avait peur d'aller chez le dentiste. C'est la première fois qu'il allait se faire faire une chirurgie. Alors son père, il a dit « OK, on va faire un documentaire. On va filmer tes impressions avant, après. On va filmer un peu pendant. » Et finalement, je pense pas que lui-même s'attendait à ce que ça soit aussi rigolo. Donc, d'où l'intérêt de le diffuser. Et contrairement peut-être à J.K. Wedding and Trance, cette fois-ci, les profits de la diffusion de ce clip-là ont été à l'usager. Dans la mesure où, rapidement, le père de David a pris conscience de ce phénomène-là, du fait qu'il avait été extrêmement diffusé, plutôt que réagir négativement, comme c'est arrivé à certains, on pense à Star Wars Kid notamment, qui a pris ça très très mal, lui a pris ça très très positivement. Il est devenu partenaire YouTube, il est devenu partenaire Twitter, simplement avec le nombre de clics sur la vidéo, il a été cherché 25 000 $ jusqu'à présent.
Ouh là là.
Il a créé un portail, davidafterdentist.com, où il vend des t-shirts, on ne sait pas combien il en a vendu, mais des t-shirts, des macarons, des trucs avec le « Is this real life? » Alors, on a décidé d'exploiter tout ça. Et le bambin, lui, s'en sort très bien aussi. Il dit à l'école, on m'en parle presque plus. Mais sur Internet, ça a été mis en ligne donc au début de l'année, donc en janvier. Et c'est encore diffusé aujourd'hui. Je veux dire, ce clip-là a été constant sur pratiquement toute l'année, a explosé tranquillement. Il y a des remakes, je le disais tout à l'heure, il y en a un notamment avec Darth Vader, en fait chercher David versus Chad Vader, qui est délicieux. On a été chercher mélanger aussi David After Dentist avec Christian Bale, qui est très drôle.
Ah oui, les deux ensemble.
Les deux ensemble. Alors, plein de reprises comme ça. Donc, ce qui fait qu'à mon sens, David After Dentist, c'est le clip de 2009. Et contrairement aux quatre autres exemples, ça montre indéniablement que encore aujourd'hui, du contenu créé par l'usager, aussi idiot soit-il, peut être diffusé, peut générer une certaine célébrité et un impact qui va aller directement pour le créateur.
Je dirais quasiment, surtout si c'est idiot, on dirait que c'est quasiment un prérequis.
Oui, effectivement. Il n'y a rien sur Internet qui est intelligent, qui est largement diffusé. Ça, je pense qu'il faut y aller avec cette idée-là au départ.
En tout cas, en voyant ce vidéo-là, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas comme Jordi, c'est-à-dire qu'il ne sera pas volé tout son argent par ses parents. On va souhaiter qu'à la fin, quand il va avoir 18 ans, peut-être qu'il va avoir quelques scènes qui vont être restées.
Dossier à suivre.
Donc, c'est tout, Raymond. Donc, je te remercie pour les grands phénomènes du web, hein, les 5 vidéos les plus vues de 2009 sur YouTube. On va mettre les liens sur le site de Puissance Maximale. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir écouter tout ça. Mais peut-être que c'est pas si important que ça, finalement. OK. Il y a quelque chose qui est décevant là-dedans, évidemment, c'est que les vidéos qui soient les plus écoutées ne concernent pas, je sais pas moi, la philosophie ou peut-être des choses qui auraient un rapport avec la société, des problèmes de société. Hein.
Mais ça arrive de temps en temps, je te dirais, quand on surveille, et je surveille à chaque semaine les tangentes les plus tweetées, les plus facebookées, les plus diffusées, et il y a quand même quelques clips philosophiques ou de nature un peu plus réflexive qui sont largement diffusés, mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de clips, de vidéoclips, de bandes-annonces, et la majorité ne sont pas non plus générés par les utilisateurs. Donc, ces clips-là, un peu comme les clips intelligents, réussissent un peu à passer outre la machine.
Parfait, je te remercie beaucoup, Raymond. Donc, on se dit à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Pour d'autres grands phénomènes du web. Vous êtes toujours à Puissance Maximale. On va écouter maintenant une pièce du groupe Mathématique. Ben, en fait, c'est un groupe, mais c'est une seule fille, tout seul, Pascal Mercier, qu'on salue, qui est une fille de Québec, qui a fait un album cette année, qui s'appelle « Noise pour toi ». Et Mathématique s'appelle parce qu'elle haït les mathématiques. Et nous aussi, à Puissance Maximale, on haït les mathématiques. On préfère jouer à des jeux vidéo. On va écouter la pièce « Fire ». Vous êtes à Puissance Maximale. Et ça va toujours mieux avec du son.
Jaune-Jaune aussi est puissance maximale.
Et vous êtes de retour à puissance maximale et nous sommes maintenant en compagnie de Antoine Perrault. Bonjour, Monsieur Perrault. Donc, Antoine Perrault de l'école d'escrime médiévale Les Duellistes. Est-ce qu'on t'entend bien?
Oui, oui, on
t'entend
bien.
Oui, on t'entend très, très mal. Donc, donc je pense que je vais... Il y a un petit problème technique que je vais rappeler tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je vais rappeler dans environ 3 minutes, l'instant que ça s'arrange. Donc, excuse-moi, je vais rappeler. Donc, sinon, bien, on va écouter, tiens, une autre pièce musicale en attendant que j'arrange le problème. Ça va être le Burger Boys, un groupe de Québec qui va faire Cosmic Burger Patrol. Vous êtes à puissance maximale.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Perrault de la compagnie Les Duellistes. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Ah, donc ça marche bien.
Ah, excellent.
Donc Antoine Perrault qui est professeur d'escrime médiéval, en fait de combat à la dague et à la lutte médiévale pour les duellistes. Donc dis-moi, là, ce style de combat-là, la dague et la lutte, là, en quoi est-ce que ça consiste exactement?
Mais en fait, c'est un ensemble de techniques qui vont sortir des traités. Les mêmes traités qu'on va utiliser pour l'épée longue, mais c'est une partie différente qui va être du combat de corps à corps, soit au couteau, soit à la lutte à main nue. Ces techniques-là consistent principalement à soit amener l'adversaire par terre en lui causant le plus de dommages possible, ou à le rendre inapte au combat en soit en faisant des clés ou en brisant les membres carrément.
En brisant les membres, c'était de cette façon-là qu'on se battait à l'époque médiévale.
Oui, c'est quand même assez violent.
Et comment est-ce que tu as découvert cette façon de se battre-là?
À quel âge?
Non, comment tu as découvert ça?
C'est sûr qu'en lisant les traités, j'ai été amené peu à peu à sortir un peu de ce que je faisais, c'est-à-dire l'épée longue et l'épée bouclier, pour voir un peu ce qu'il y avait d'autre ailleurs. Puis j'ai tout le temps été un peu intrigué par cette manière de se battre-là. Puis ils se donnaient, à l'école où j'allais avant, des cours privés de dague et lutte. Et j'en ai pris pendant un temps. Puis par la suite, j'ai commencé à en faire par moi-même avec des amis en dehors pour finalement essayer de développer le plus possible une pratique à ce qu'il y avait à l'époque.
Mais là, Antoine Perrault, tu me dis, ça t'a fasciné. C'est quoi exactement qui est de fascinant particulièrement dans le combat à la dague?
Ce qui est intéressant avec le combat à la dague et à la lutte, c'est que la majorité des combats qui vont commencer à l'épée longue vont finir soit par quelqu'un qui va gagner par une touche ou par de la lutte. C'est un peu inévitable. Si on finit par trop se rapprocher, on va commencer à faire de la lutte. Puis souvent, on se ramassait à être au corps à corps puis à plus savoir quoi faire parce qu'on n'avait pas été voir les techniques jusque-là.
Donc, les gens qui avaient pris les cours d'épée les plus avancés, ils se retrouvaient à un moment donné, à la fin de leur combat, ils se retrouvaient à la lutte, ils se retrouvaient pratiquement désarmés parce qu'ils n'avaient pas pris les cours.
À peu près, ouais.
Et là, les traités là, sur lesquels tu t'es renseigné, on peut pratiquement parler d'anthropologie. Là. Donc, tu as étudié les traités médiévaux de lutte, de combat à la dague. Et là, on parle de quel maître en particulier?
Il y a plusieurs maîtres, c'est assez vaste. On peut définir deux grandes écoles, l'école allemande et l'école italienne. Personnellement, j'ai plus poussé l'école italienne à travers le maître Fior de Libri, qui a écrit deux traités que j'étudie présentement et deux autres qui sont en voie de transcription et que je vais pouvoir étudier bientôt.
Oh, en voie de transcription. Ça veut dire que finalement, tu es en train de faire renaître le style pratiquement oublié, quoi?
Je dirais pas que je le fais renaître personnellement. En France, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent déjà à cette division de l'escrime médiévale-là. Mais au Québec, effectivement, je suis un des seuls à le faire.
OK. Et je sais pas si je me trompe, mais on a toujours l'impression qu'avec l'évolution des armes, là, on a toujours la volonté de s'éloigner de l'ennemi. Là. Donc, je me demandais, est-ce que le combat à la dague et la lutte, là, est-ce que ce serait le combat le plus... le style de combat le plus primitif, le plus le premier, l'origine, quoi?
Qu'on a de codifié dans les traités puis qu'on pourrait aller chercher dans le temps, pour les Occidentaux, oui. Ça va ressembler un peu à ce qui se fait en Orient, par exemple à travers l'aïkido puis l'aïkibudo.
OK. Donc, ça ressemble à l'art martial asiatique?
Dépendamment desquels, mais si on y va vers l'aïkido, qui descend un peu d'une espèce de tradition martiale de samouraï, donc de chevaliers orientaux, on pourrait grosso modo dire que c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus d'armes puis qu'on a un adversaire devant nous?
Mais on s'entend, les maîtres médiévaux de l'époque, comme Fior de Libéry, ils savaient pas ça. Ils s'inspiraient pas des Asiatiques?
Non, pas du tout. C'est juste qu'on peut remarquer des similitudes sur certaines techniques très spécifiques. Il n'y a pas 36 façons de casser un bras, fait qu'évidemment, quand on amène une clé de bras, ça va ressembler un peu à ce qui va se faire en Orient.
Une question niaiseuse comme ça, c'est quoi la différence entre une dague et un couteau?
En fait, il y a plusieurs sortes de dagues. Celle qui est utilisée, c'est principalement la dague à rouelle, donc une dague qui va faire entre, je dirais, 15 et 19 pouces.
OK, donc c'est pratiquement des épées là, courtes. Là.
C'est vraiment très long, puis ça va être uniquement utilisé pour des coups d'estoc, donc percés et non tranchés.
OK. Et finalement, je voulais savoir aussi, les clients là, qui font affaire avec les duellistes, là, et qui vont tes élèves, là, Antoine Perrault, là, c'est quel genre de personnes? Est-ce que c'est uniquement des médiévistes ou là-dedans, il peut y avoir, je sais pas moi, des gardiens de sécurité ou n'importe quoi?
C'est sûr que présentement, le cours vient de commencer, donc on a un bassin d'élèves qui va être très, très près des duellistes, donc des gens qui vont souvent suivre des cours déjà à l'épée longue ou à l'épée bouclier. C'est sûr que c'est pas nécessairement un art martial de combat de rue, donc même si ça a une certaine violence, ça se passe dans un contexte historique de recherche martiale, mais ça va ressembler déjà à ce qui se fait en autodéfense, oui, des fois.
OK. Et les gens qui étudient cette technique de combat-là, est-ce qu'ils ont le loisir de peut-être le pratiquer? Comme je sais, par exemple, que tu avais fait partie de la compagnie médiévale.
Oui.
Donc, j'imagine que c'est dans ce genre de situation-là, de reconstitution, de combats médiévaux, d'époque, pour des raisons comparatives, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser au grand public ces méthodes-là de combat, j'imagine.
Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui.
Mais est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, dans un grandeur nature?
J'ai déjà travaillé à adapter les techniques au grandeur nature, mais c'est un peu compliqué en ce qui a trait à la vague et lutte parce que en grandeur nature, on a plus ou moins le droit d'avoir des contacts physiques. Et ben là, c'est du corps à corps directement, puis c'est de l'estoc, puis c'est du fauchage, puis c'est des clés beaucoup, ce qui est plus ou moins permis en grandeur nature.
OK. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Antoine Perrault. C'est tout le temps qu'on a. Donc, pour les chevaliers en devenir qui sont des grands manieurs d'épée, mais qui ne connaissent pas les méthodes de lutte, hein, c'est très important. Alors, si vous retrouvez contre un adversaire, hein, ça peut être très, très, très important de savoir comment manier la dague et la lutte. Alors, on vous invite évidemment à vous diriger vers l'école Les Duellistes à Montréal. Et si vous voulez plus d'informations, lesduellistes.com, c'est pas plus compliqué que ça. Je te remercie beaucoup, Antoine.
Merci, au revoir.
Et à la prochaine. Donc, voilà, c'était Antoine Perrault des Duellistes. On va aller écouter maintenant une petite pièce musicale. En passant, je vais vous dire ce que j'ai joué tout à l'heure. Il y avait la pièce de Musax.info, notre ami qui nous envoie des pièces de jeux vidéo à chaque semaine. Et ils avaient fait donner une pièce de Fallout 3, donc ce jeu de rôle post-apocalyptique. Et après ça, c'était Tekashi and the Bunnies avec The Flight of the Bumblebee. Et sinon, ben, on va aller écouter quelque chose d'autre. Vous êtes à puissance maximale et on va venir tout de suite après et peut-être qu'on va faire tirer quelque chose. Alors, restez près du téléphone 529-90-26 pour téléphoner. Peut-être qu'on va faire tirer quelque chose après cette pièce musicale. C'est peut-être. C'est François Chécouillard qui vous parle, vous êtes à puissance maximale. Alors, c'est tout le temps qu'on a. C'était Puissance Maximale. C'est la fin de cette émission. On remercie les gens qui ont participé. Raymond Poirier, avec les grands phénomènes du web. Il y avait aussi notre invité Antoine Perrault, qu'on a eu de peine et de misère des duellistes. Et ben, c'était François Jécouillard au micro. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous êtes vite sur le piton, 520-529-9026 pour gagner un set de dés. J'en ai trois sortes. Le set de dés pour les horreurs à Arkham, un set de dés pour Deadlands et un set de dés pour Steampunk. Ça peut servir pour n'importe quel jeu. Hein. Il y a des D20, des D4, des D6. Vous avez juste à appeler. Alors voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie. Ciao, à la prochaine. Et je passe une bonne fête là, parce qu'on vient pas avant trois semaines. Ciao, ciao. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb.